les chemins de traverse, escapade à Belle-Île en mer, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Dans cette série des chemins de traverse, je vous emmène pour une escapade sur l'aînée des îles du Ponant. Bonjour et bienvenue pour une visite insolite de la plus grande des îles bretonnes, Belle-Île en mer. Nous sommes toujours sur la côte sauvage, face au large, sur la commune de Bangor, au hameau de Kervilawen, hameau où est situé le grand phare de Belle-Île, le phare Goulphare. Avant de poursuivre notre entretien avec un de ses gardiens, Michel Granger, quelques précisions sur la bâtisse qui, de ses 52 mètres, domine Belle-Île. Le phare de Goulphare. Les travaux du grand phare débutent en 1826, d'après les plans fournis par Augustin Fresnel, ingénieur de la commission des phares. À la mort de celui-ci en 1827, son frère, Léonore Fresnel, nommé à la tête du service, prend la suite du projet. La remise en cause de la solidité de l'édifice et les désaccords sur les plans durant le chantier retardent les travaux qui s'achèvent 10 ans plus tard. La base du phare est constituée d'un bâtiment circulaire de 14 mètres de diamètre. Il accueille les logements à l'étage et les ateliers au rez-de-chaussée. La tour est en granit, car le schiste présent partout sur Belle-Île n'offre pas la garantie d'une construction durable. Sur les conseils de l'ingénieur hydrographe Beautemps Beaupré, le phare est écarté de plus d'1 kilomètre de la côte en raison de la nature du sol. À l'intérieur, il faut gravir 247 marches pour accéder au balcon. Les pierres du phare sont acheminées par bateau depuis Pont-Aven et Redon. Il se dit même qu'une partie des fondations aurait été réalisée avec des menhirs provenant d'Erdeven et de Carnac. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de gardien de phare ?
Michel Granger, gardien de phare à Belle-Île-en-Mer.
Oh ben on travaille dans des sites quand même assez remarquables par la qualité des paysages que l'on découvre quand on y va. Hein, quand on va sur la pointe des Poulains ou même en haut de ce phare, hiver comme été, on a des paysages de tempête, des fois l'hiver, qui sont magnifiques. Nous, on est derrière notre vitre dans la coupole, là, et on découvre cette mer agitée, monstrueuse, là, que, tout en étant à l'abri derrière nos vitres. Donc, c'est un côté agréable pour l'environnement. Sinon, la variété du travail, hein, on fait une partie bureau, on va dire, avec le télécontrôle, où tout est informatisé. Et puis on fait une partie entretien tout azimut, j'ai envie de dire, tout corps d'état. Hein. On fait de la peinture pour entretenir nos établissements, on fait la vidange du groupe électrogène, on recherche une panne électrique quand il y a un problème sur l'installation. Donc ce qui est intéressant dans ce métier, justement, c'est cette variété de missions ou de tâches qu'on est amené à faire. Il n'y a pas de routine chez nous. En fonction de la saison, on adapte un petit peu notre programme.
Ascension du phare de Goulphare.
Deux cent quarante-sept marches.
Alors après avoir grimpé quelques marches, nous arrivons au salon d'honneur qui fait le tour de l'escalier en quelque sorte. L'escalier est au centre du salon d'honneur. On continue. Petit arrêt, à peu près à mi-chemin, où on aperçoit l'océan et la lande. Et un peu plus sur la gauche, les aiguilles de Port-Coton. A priori, nous avons gravi déjà 110 marches. Il y a une saison que vous préférez plus qu'une autre ?
Oh non. Toutes les saisons ont leur charme, j'ai envie de dire. Hein. Tout à l'heure, je parlais de tempête. Bon, évidemment, l'hiver, quand on découvre ces belles tempêtes, c'est majestueux, quelquefois. Puis l'été, ben, c'est autre chose. Et, ce phare est un phare qui se visite, donc il y a plein de visiteurs qui viennent nous voir. Enfin, ne sont plus les gardiens qui organisent les visites. Maintenant, c'est la communauté de communes de Belle-Île.
Ouais, c'est vous qui les organisiez à une époque ?
À une époque, oui, les gardiens ouvraient la porte de leurs établissements l'été, expliquaient un petit peu le fonctionnement du phare aux visiteurs. Et puis maintenant, bah, toujours pour les mêmes raisons, comme les gardiens ont disparu de la plupart des phares, les visites ont été reprises par des mairies, des communautés de communes, comme c'est le cas aujourd'hui à Belle-Île. Et ça permet toujours aux visiteurs de pouvoir y accéder à ces balcons avec des vues panoramiques. Donc c'est bien de partager ça, quoi.
Oui, c'est vrai que depuis la passerelle des phares en haut, on a toujours une vue magnifique sur les environs.
C'est... Ah oui, oui, oui. Puis je sais pas, les phares, c'est un peu emblématique. Les gens.
Bah, il y a toujours une certaine magie. Ça fait partie des monuments, il y a une magie, je trouve.
Les gens viennent, même les enfants. C'est souvent les enfants qui attirent les parents pour monter toutes les marches. Des fois, quand tes parents sont un petit peu hésitants avant de gravir les 257 marches qui permettent d'accéder jusqu'en haut du phare, là. Donc, ce sont les enfants qui sont, à la surprise de leurs parents, très courageux pour monter toutes ces marches. Et,
là, il n'y a pas de problème. C'est pas non, comme à la maison s'il y a deux étages à monter.
Exactement. Ouais. Non, ils sont assez courageux pour aller voir ce qui se passe là-haut, effectivement. Et puis la sortie sur le balcon, bon, ben, pour ceux qui n'ont pas le vertige, en tout cas, permettent de découvrir quand même des jolis paysages, forcément en bord de mer. Quoi. Mm-hmm. Côté vue aérienne sur Belle-Île, et puis le côté littoral qui est...
C'est chouette en plus. Oui.
C'est chouette, sous le soleil, comme c'est le cas aujourd'hui.
Allez, plus que 47 marches. Nous sommes, je veux dire, au premier niveau, c'est-à-dire que nous avons fini de gravir l'escalier en granit et il nous reste là, quelques vingtaines de marches à gravir de l'escalier métallique. À ce premier niveau se trouve le système de rotation de l'optique. Lors de sa mise en service en 1836, la rotation de l'optique s'effectue grâce au mouvement descendant du contrepoids de 70 kg que l'on peut encore voir au centre de cette pièce. Jusqu'en 1952, le gardien se rendait dans la lanterne toutes les 4 heures pour remonter le mécanisme de 420 tours de manivelle. Plus tard, un moteur électrique prendra le relais. Depuis 1992, les lentilles tournent grâce à un entraînement directif animé par un moteur électrique de 15 watts. Vous n'avez jamais eu envie de devenir gardien de phare en pleine mer ?
Ah bah, j'ai fait une petite expérience tout à l'heure quand j'ai résumé un petit peu ma carrière. J'ai parlé de la période où j'étais auxiliaire là, pour remplacer les titulaires pendant leur congé. Donc à cette époque, j'ai fait les trois phares de Belle-Île, le phare de Goulfard, le phare des Poulains, le phare de Cardonis. Mais j'ai fait également des remplacements au phare de la Ténius, qui est un phare en mer situé à côté de Quiberon. Là. Et donc j'ai eu ma petite expérience de phare en mer. Bon, c'était à la belle saison, j'avoue que je suis pas un héros de la tempête, mais bah, c'était une expérience que je regrette pas d'avoir faite. Par contre, je me voyais mal passer ma vie sur un caillou au milieu de l'eau, quoi. Ouais. Même si on était deux, c'était un petit peu longuet quand même. On restait 2 semaines quand même consécutives, 2 semaines sur un caillou, c'est...
Ça fait long.
Ça fait un peu long, surtout quand on a 20 et quelques années, on a peut-être des envies d'aller courir un peu plus loin. Quoi.
Oui, peut-être d'autres choses à faire.
Voilà.
Je vais rester sur le caillou.
Je me rappelle que le samedi soir, comme on n'était pas très loin de Quiberon, de la côte qui était en face, je voyais toutes les lumières de la ville, les voitures qui allaient et venaient, et je me disais, bah, les jeunes de mon âge, ils sont en train de s'amuser, et moi je suis tout seul au milieu de l'eau ici. Bon, c'est vrai que l'expérience, comme je viens de dire, était intéressante. Mais
non, ça vous a pas donné envie de prendre un phare en pleine mer après.
Non, je sais pas, t'es pas très attiré par ça.
Non, mais je pense qu'il va falloir aimer quand même sacrément la solitude.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et puis pouvoir tenir aussi, parce que
tenir
mentalement, psychologiquement. Ouais.
Et puis bon, ça dépendait aussi de l'entente qu'on avait avec son collègue, parce que vivre dans des espaces très réduits, très restreints, avec une personne qu'on n'a pas forcément choisie, hein, chacun ayant son caractère et ses habitudes, des fois il y a des histoires un peu rocambolesques dans les phares, entre les gardiens qui ne s'entendaient pas forcément tous les jours bien, quoi.
Oui, ça m'étonne pas.
Ouais.
Les chemins de traverse, escapade à Belle-Île en mer.
Ascension du phare de Gonfard. Nous voilà maintenant au deuxième niveau, dans la pièce où se trouve le lit clos. Lit clos qui est derrière des panneaux mobiles. Et avant l'électrification, à la fin du 19e siècle, deux gardiens sont relayés en haut du phare pour veiller à la lanterne. Et pendant que l'un se tenait à côté du feu, l'autre, dans la pièce en dessous où nous sommes, dormait dans le lit clos. Allez, encore une vingtaine de marches, et nous allons arriver à l'air libre.
Heureusement, hein. Oh, oui, c'est pas une... Tu l'avais vu, celle-ci ?
La vue.
Ah ouais.
C'est pas comme si c'était Los Angeles.
Un des gardiens qui est en train de faire son jardin en contrebas. Et là, il y a la dernière échelle qui permet d'accéder à la lanterne. Alors, nous sommes en train de faire le tour. Donc, on a une belle vue sur Belle-Île. Dès qu'on arrive sur la plateforme, on voit Port-Coton, l'hôtel du Grand Large, le bunker avec le sémaphore. Et puis après, on a une vue à 360 si on fait le tour sur tout Belle-Île et sur la côte environnante. Là, ce côté-là, ça souffle. Hein. De là-haut, on voit parfaitement tout le domaine du phare. On a vraiment une belle vue. Puis en plus, aujourd'hui, le temps est dégagé, mais il y a quelques petits nuages, donc ça donne du contraste. Des petits hameaux dispersés de ci, de là, avec ces toits en ardoise et ces maisons toutes blanches. Nous avons vraiment une belle vue. On va voir votre lieu de travail.
Tout à fait, je vous invite à me suivre et on va arriver à notre station de contrôle dont je parlais tout à l'heure. Alors déjà ici, on traverse une grande pièce, là, ce qu'on appelle la centrale électrique du phare, où on peut voir encore les vieux groupes électrogènes, ainsi que les vieilles armoires électriques qui datent de 1950. Ces vieux groupes et ces vieilles armoires ne servent plus aujourd'hui, hein, c'est du patrimoine. Et on a au fond de la salle un groupe électrogène dans un caisson insonorisé. Et c'est lui qui prend le relais automatiquement du réseau EDF lorsqu'il y a une coupure du secteur EDF, quoi. Donc cette salle est bien grande maintenant pour l'usage qu'on en a. Mais de conserver ces vieilles machines, ces vieux moteurs et ces armoires électriques d'un autre âge, je trouve que c'est bien d'avoir des traces des technologies d'un certain temps, il y a un peu plus d'un demi-siècle.
Ouais. Oui, puis ça laisse une certaine âme dans le local en plus.
Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais.
Ces armoires, c'est assez impressionnant parce qu'elles sont grandes. Et puis alors, il y a des manettes, il y a des grands cadrans, des grands volants. Ça servait à quoi, ça, exactement ?
Alors, comme on peut voir écrit sur ces armoires, sur l'armoire centrale, par exemple, on voit écrit feu électrique à arc. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du fonctionnement du phare avec des lampes à arc jusqu'en 1952. Donc, c'était le réglage du courant pour alimenter ces lampes à arc. Il y avait plusieurs groupes électrogènes, donc toutes ces manettes permettaient de passer d'un groupe à l'autre et d'assurer comme ça en continu l'alimentation du phare et des dépendances. Ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'à côté du phare, ici sur le littoral, on a un bâtiment qui reste en tout cas, de la sirène de brume, qui était alimentée en air comprimé depuis ce phare, et les compresseurs d'air se trouvaient dans cette salle, donc c'est pour ça que cette salle a été faite très grande pour contenir toutes ces machines qui avaient leur utilité à l'époque. Ces compresseurs d'air ont disparu parce que la sirène a été arrêtée et il n'avait plus d'utilité de garder ces compresseurs-là. Mais ce qui reste, c'est bien de le conserver, c'est quand même du patrimoine intéressant.
Oui, ça fait partie de la mémoire.
Ça fait partie de la mémoire, tout à fait.
Je vous laisse en haut du phare pour admirer la vue sur Belle-Île et je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette même antenne pour la fin de cette visite et de cet entretien avec Michel Granger. Au revoir et à très bientôt sur Belle-Île en mer.